Vous êtes sur RTL. RTL Midi, le 12h, Pascal Pro, Céline Landreau.
Il est 12h effectivement, bonjour à tous et bienvenue dans RTL Midi, 2h30 d'information et d'opinion jusqu'à 14h30 et l'information jusqu'à 13h, c'est avec vous Céline Landreau, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Et si au lieu de se déplacer en avion, le PSG utilisait le char à voile? Vous en parliez à l'instant, l'humour de Christophe Galtier passe mal et déchaîne la classe politique. Voilà le club englué dans la polémique à l'heure de retrouver la Ligue des Champions et la Juventus Turin ce soir. Les premiers mots des accusés attendus au procès de l'attentat de Nice cet après-midi. Et puis, le gouvernement qui veut réguler les dark stores des supermarchés fantômes, sans enseigne, sans clients, mais qui s'installent dans nos centres-villes.
RTL toujours plus proche de vous, dans moins de 10 minutes, RTL Midi, un jour chez vous en France.
Et aujourd'hui, on part en Gironde après les incendies qui ont dévasté le département. Une nouvelle course contre la montre s'engage cette fois pour débiter le bois brûlé. À midi 20, RTL Midi, votre vie plongée dans votre quotidien. Alors que les taux grimpent, est-ce le bon moment pour devenir propriétaire? On vous dit tout. Enfin, juste avant 13h, LVT Midi, hommage à Bébel aujourd'hui, un an après sa disparition. Vous entendrez les confidences de son fils, Paul Belmondo. La question du jour sur RTL.fr, se déplacer en char à voile. Avez-vous été choqué par les réactions de Christophe Galtier et Kylian Mbappé?
Autant de sujets évidemment que vous pourrez débattre à partir de 13h. On parlera bien sûr d'Emmanuel Macron et de ce qu'il nous demande sur la sobriété. Une trentaine de piscines publiques également qui ont fermé leurs portes depuis hier. Et puis on reviendra bien sûr à l'hommage à Jean-Paul Belmondo un an après son décès.
Mais avant ça, la météo. Bonjour Peggy Broche.
Bonjour Céline, bonjour à tous.
Qu'est-ce qui nous attend cet après-midi?
Orageux dans l'est du pays, sur le nord-ouest et beau ailleurs.
Merci Peggy, on vous retrouve évidemment à la fin du journal.
RTL Midi.
Rarement une phrase d'entraîneur du PSG en conférence de presse d'avant-match aura suscité autant de commentaires dans la classe politique. C'est une déferlante depuis la sortie de Christophe Galtier. Interrogé sur l'opportunité de prendre l'avion pour aller disputer un match de championnat à Nantes, l'avion plutôt que le train, l'entraîneur parisien a répondu par une boutade, assurant qu'ils examinaient désormais la possibilité de se déplacer en char à voile. À ses côtés, un Kylian Mbappé hilar, mais cet humour n'a pas été très apprécié par nos politiques, William Galibert.
Eh oui, la récupération, c'est un art au football, ça l'est aussi en politique. Non mais ça va pas de répondre des trucs pareils. On se réveille les gars, s'est emporté Anne Hidalgo hier soir. Le maire de Marseille, encore plus sentencieux. Votre mépris est un crachat en pleine figure. Vous êtes pathétique et triste, écrit Benoît Payan, sans qu'on sache si les joueurs de l'OM prennent davantage le train que leurs rivaux parisiens. C'est choquant. Tranche aussi Agnès Pannier-Runacher, la ministre de la Transition énergétique. C'est du mépris, ajoute l'écologiste Julien Bayou. Il n'y avait guère que le républicain Éric Ciotti ce matin sur RTL pour dédramatiser.
Il y a des enjeux climatiques essentiels. Regardons les vrais problèmes et comment on les surmonte et pas sur des polémiques un peu stériles. Voilà, j'ai l'impression qu'on regarde l'écume et qu'on ne se soucie pas de la mer, pour prendre la formule de Paul Valéry.
Enfin, au Rassemblement national, on rappelle que les ministres ne sont pas les derniers pour se déplacer en jet privé. Les politiques et les footballeurs ne sont peut-être pas si différents.
William Galibert du service politique de RTL, merci. Et je vous rappelle quand même que l'actualité du PSG ce soir, elle est aussi sportive. Le club de la capitale retrouve la Ligue des Champions. Ce sera face à la Juventus Turin. Et ce sera à vivre, évidemment, dans RTL Foot dès 20h45.
RTL Midi.
Les premiers mots des accusés attendus cet après-midi au procès de l'attentat de Nice.
Ils sont 8, hein, 8 accusés, mais aucun d'eux n'est renvoyé, on le rappelle, pour complicité d'attentat terroriste. Le tueur Mohamed Laouesh Boulel a été tué par les forces de l'ordre après avoir fauché la vie de 86 personnes et fait plus de 450 blessés le 14 juillet 2016 sur la promenade des Anglais. En son absence, les avocats de la défense craignent de voir leur client endosser un rôle qui n'était pas le leur. Maître Vincent Brengart défend l'un d'eux. Il est soupçonné d'avoir aidé Mohamed Laouesh Boulel à se procurer le camion tout en ignorant son projet terroriste.
Ce qu'on lui reproche est tellement nébuleux, il est acquis qu'il n'est absolument pas complice, et on lui reproche finalement un faisceau d'éléments, par exemple des contacts avec le terroriste. On lui reproche d'avoir été un moment dans le camion quelques jours avant à la demande de M. Laouesh Boulel, mais pas d'acte de complicité positif, et le dossier n'établit pas, par exemple, qu'il avait eu connaissance du projet d'attentat qui était en train de se préparer. On parle de personnes qui seraient des seconds, voire des troisièmes, quatrièmes couteaux, et encore une fois, uniquement par rapport à la manière dont c'est présenté dans cette ordonnance de mise en accusation. Donc effectivement, c'est un dossier qui peut faire naître des frustrations extrêmement importantes.
Propos recueillis pour RTL par Thomas Proutot.
Des commerces sans clients au milieu des rayons. Les dark stores font polémique. Alors dark, ça veut dire sombre, et store, c'est magasin. Et s'invite aujourd'hui à l'agenda du gouvernement.
Une réunion, oui, actuellement pour mieux réguler ces entrepôts sans enseigne installés en plein cœur des villes pour permettre en fait aux livreurs de satisfaire les clients le plus vite possible. Ils essaiment, notamment à Marseille, où Hugo Hamelin a filé, comme on dit, l'un des livreurs à scooter, pour mieux comprendre ce phénomène.
Alors, on est devant le dark store. On voit les livreurs qui vont pas tarder à partir. Là, il y en a un qui part et on va essayer de le suivre. Premier feu rouge grillé. Et après deux ou trois autres infractions au code de la route, on arrive à interpeller Clément, livreur depuis un mois.
Les raisons du dark store, que les courses uniquement.
Alors, c'est assez mystérieux pour les gens. À quoi ça ressemble à l'intérieur, le dark store?
C'est tout simplement un magasin, en fait, où il y a des rayons avec les différents, je sais pas, des fruits, des légumes. C'est un carrefour, mais juste pour la livraison, c'est tout.
Est-ce que les gens qui te commandent, c'est des gens qui vont pas dans les grandes surfaces? Ouais. Ou...
Généralement, c'est des personnes âgées. La plupart, j'ai remarqué 70% des personnes âgées. Le reste, c'est plus des étudiants.
Et ils t'accueillent comment?
Les bras ouverts, j'ai 20 euros de pourboire en une semaine.
Margot a 28 ans, elle vient de se faire livrer des courses pour 3 repas.
Bonjour, merci beaucoup pour les courses.
Je suis une habituée, je le fais pas souvent, mais on va dire que je le fais entre 2 à 3 fois par mois. Je travaille à la maison. En bas, il y a un Carrefour qui est quand même assez cher, faut se le dire. Et la différence de prix est pas énorme, j'ai pas l'impression que ça soit si cher que ça. Je trouve que c'est assez bien fait, quoi.
Un service en plus, Margot assure qu'elle va toujours chez son primeur et son fromager et que le dark store, c'est plutôt pour la dépanner.
Hugo Hamelin à Marseille pour RTL. La diffusion de cette vidéo avait conduit Benjamin Griveaux à renoncer à la mairie de Paris, vidéo intime, on le rappelle. Le couple Piotr Pawlinski et Alexandra de Tadeo est renvoyé devant le tribunal correctionnel, on vient de l'apprendre. Au Royaume-Uni, Elisabeth II, elle s'apprête à rencontrer sa 15e chef du gouvernement. Liz Truss est attendue à Balmoral en Écosse. Avant elle, c'est Boris Johnson qui viendra remettre officiellement sa démission à la reine.
Un rendez-vous pour les couche-tard amateurs de tennis. Caroline Garcia vise une place en demi-finale de l'US Open cette nuit.
La Française qui dispute pour la première fois de sa carrière un quart à Flushing Meadows devra affronter dans le chaudron américain la locale Coco Gauff, étoile montante de la discipline. Caroline Garcia, très impatiente d'en découdre.
Ouais, ça va être explosif, franchement. C'est un match que j'ai vraiment hâte de jouer. Il y a beaucoup d'excitation. Quart de finale en Grand Chelem, jouer Coco, qui est vraiment une superstar déjà malgré son jeune âge aux États-Unis. Le public américain qui est toujours très très chaud, qui peut s'enflammer sur chaque point, c'est vraiment une super opportunité, super expérience. Et un challenge en plus à gérer pour faire un gros match.
Propos recueillis pour RTL par Jean Perron. Et puis l'équipe de France de volley en quart de finale du Mondial. Les Bleus qui ont battu le Japon en 5-7 hier soir retrouveront l'Italie demain à 17h30.
La météo, c'était formidable à suivre. Hein,
c'était
le volley.
Tout en intensité.
C'est un très très beau sport.
Beaucoup de suspense en plus dans le tie-break. On s'est couché tard, Pascal, hein. On s'est couché tard pour regarder ça.
Exactement.
Pas ensemble, mais tard. La météo, comme promis, on vous retrouve, Peggy Broche. Encore des orages cet après-midi.
Exactement, Céline. 27 départements sont en vigilance orange aux orages dans l'Est, entre le sud du Massif central en remontant vers le Grand Est. Et orages plus inondations sur l'Hérault et le Gard, où il pourrait localement tomber l'équivalent d'un mois de pluie avec des orages stationnaires, donc situation à surveiller. Un temps instable également avec des averses orageuses, mais moins marquées sur le Nord-Ouest, entre la Bretagne, les Pays de la Loire et la Normandie. Et puis ailleurs, entre la frontière belge, l'Île-de-France, le Limousin, c'est du beau temps, même si un coup de tonnerre isolé reste possible. Et un beau soleil entre les Pyrénées et la Charente, le tout sous des températures en légère baisse. Mais on est toujours au-dessus des normales de saison, 20 à 24 près de la Manche, 27 à 30 degrés sur le nord et jusqu'à 33 au sud.
Merci Peggy.
RTL Midi, un jour chez vous.
C'est l'un des nouveaux rendez-vous de cette nouvelle saison RTL Midi, un jour chez vous, un jour en France.
Chaque jour, l'info au plus près de vous avec nos correspondants qui quadrillent le pays. Cap donc sur la Gironde aujourd'hui. Bonjour Denis Grangeau.
Bonjour Céline, bonjour Pascal.
Et après les incendies qui ont dévasté le département cet été, une nouvelle course contre la montre s'est amorcée, c'est celle des forestiers qui doivent maintenant débiter le bois brûlé le plus vite possible.
Oui, la préfecture de Gironde a donné son feu vert vendredi après-midi pour que les forestiers commencent le travail d'abattage. Alors les opérations ont vraiment commencé hier et j'ai croisé Nathan qui supervisait le ramassage d'arbres préalablement coupés quelques heures auparavant. Alors, il faut imaginer le décor, une immense clairière avec des troncs noircis qui sont couchés sur la bruyère et tout autour de nous une odeur de brûlé qui persiste.
Là, on voit les engins qui sont dans le chantier, qui sont en train de débarder le bois qui est brûlé et qu'on est en train de mettre au bord de route, voilà, pour essayer de valoriser le bois le plus rapidement possible avant qu'il se détériore tout simplement.
Il est très abîmé le bois, on voit là, comme il est pas mal brûlé. Ouais. Hein.
Alors on voit que le feu, il a léché l'écorce, donc c'est surtout l'écorce qui est abîmée pour le moment. Les arbres, en grande majorité, sont malheureusement morts sur pied et il y a un facteur qui est de temps qui est assez important. Il faut qu'on exploite le bois le plus rapidement possible avant que le bois se détériore.
Ça veut dire, Denis, qu'après avoir combattu les flammes pendant des semaines, dans la région, on ne peut toujours pas se reposer un peu.
Oui, c'est ça, parce que les forestiers doivent se faire connaître dans les mairies avant d'intervenir. Donc ça accentue encore un peu plus la pression pour les maires des tout petits villages qui ont été impactés par l'incendie. Et j'ai rencontré Mylène Doreau, c'est la maire de Guillos, le tout premier village qui a été évacué cet été.
Le contre-coup, il a fallu le gérer. Quand on a eu la tête dans le guidon pendant un mois, on n'y a pas pensé. Donc on a avancé, tous, autant que nous étions. Mais maintenant, c'est un peu plus compliqué, effectivement. On se rend compte que la contrainte nerveuse et physique, maintenant, avec le relâchement, on a chacun un petit peu des bobos, des douleurs un peu partout. Et puis maintenant, il faut se remettre dans le vif du sujet, hein, et les affaires continuent.
Et l'avenir de la forêt, Denis, il inquiète encore ?
Oui, alors on l'a compris, le futur proche, c'est l'urgence de couper les arbres avant les pluies et donc le pourrissement possible, ce qui rendrait invendable la matière première. Et quand on écoute Jean-Marc Pelletan, le maire de Landiras, on se doute que la page de l'incendie sera difficile à tourner, avec en plus des inquiétudes qu'on n'imaginait pas forcément pour ce qui peut devenir ce territoire jusqu'ici qui était exclusivement consacré ou presque à la forêt depuis des siècles.
Non, c'est pas derrière nous, c'est toujours d'actualité. Mais bon, je pense que ça va s'estomper avec la coupe de ces bois. C'est sûr que il va y avoir une prise au vent énorme, puisque 20 000 hectares, c'est quand même énorme. Et puis nous, ce qui nous inquiète, c'est surtout la replantation. Parce que le problème, c'est que si les propriétaires ne sont pas aidés pour replanter, moi je pense qu'il y en a un certain nombre qui ne vont pas replanter, et on va avoir arrivé tous les gens qui veulent mettre des foot du photovoltaïque, etc. Voilà, ça c'est mon inquiétude.
Alors pour l'instant, il n'y a pas de projet de grand champ photovoltaïque, mais j'ai un chiffre assez incroyable, le nombre d'arbres qui ont brûlé durant cet incendie autour de Landiras, plus de 3 millions.
Plus de 3 millions.
3 millions d'arbres ?
3 millions d'arbres.
Écoutez, ce chiffre nous surprend.
Communiqué par le maire de Landiras, je lui ai dit, vous êtes Ahmed, ouais, 3 millions d'arbres à peu près. Ouais.
C'est vrai que c'est sidérant, on se rappellera
de ce
chiffre.
Quand vous passez là-bas, c'est incroyable, c'est vraiment c'est lunaire. Hein. C'est incroyable.
Merci beaucoup, Denis Grandjou, merci.
Vous le savez, chaque jour après le journal, on s'arrête pour développer l'un des titres de l'actualité du jour. Et c'est notre premier focus, nouvelle conséquence de la hausse des prix de l'énergie. Maintenant, ce sont les piscines qui ferment. On en parle donc dans un instant.
Jusqu'à 13h, RTL Midi. Pascal Pro, Céline Landreau. Céline Landreau, Pascal Pro, RTL Midi.
J'ai renouvelé mon abonnement samedi. Bah, aucun moment, on m'a dit que la piscine allait fermer. Je suis carrément hyper dégoûtée. C'est une gestion carrément catastrophique, en tout cas pour les usagers. C'est pas très respectueux. Hein.
La surprise de cette nageuse de Montauban qui a trouvé porte close devant sa piscine hier. Face à l'augmentation du prix de l'énergie, le groupe Vermarine, qui gère une trentaine de piscines dans toute la France, a annoncé tout simplement l'arrêt temporaire des établissements. La facture de gaz est passée de 15 à 100 millions d'euros. D'où cette décision de fermeture et de mise au chômage partiel du personnel. Pour en parler avec nous, le maire de Versailles, François de Mazières, bonjour.
Bonjour.
Versailles fait donc partie de ces communes touchées par cette fermeture de piscine. D'abord, comment vous l'avez appris ?
Écoutez, on l'a appris vendredi soir, en fin de journée. On a reçu un courrier en nous disant que la piscine serait fermée lundi. Alors évidemment, c'est totalement anormal, si vous voulez, parce que c'est une délégation de service public, et donc il y a des règles précises que Vermarine n'a pas respectées, en l'occurrence, parce que quelque part, c'était une prise d'otage des usagers de la piscine, et ça, c'est pas normal.
Et j'imagine que vous avez été en contact avec Vermarine, que vous avez cherché à les joindre. Quelle est leur réponse ?
Alors, bien sûr, on a eu contact avec Vermarine. J'ai eu d'ailleurs hier aussi le président de la société. Leur réponse, c'est qu'ils se trouvent dans une situation financière extrêmement difficile du fait de l'explosion du coût de l'électricité. Et c'est un sujet, si vous voulez, qui dépasse il faut bien dire, les communes maintenant. C'est pour ça que je pense qu'il ne peut y avoir qu'une solution, c'est que l'État regarde avec Air Marine et les collectivités territoriales la solution à apporter, parce qu'on ne peut pas imaginer que les piscines soient fermées longtemps.
Parce qu'on rappelle, hein, pour nos auditeurs qui sont peut-être surpris d'entendre des montants pareils, de factures qui s'envolent, que le bouclier tarifaire qui existe pour les particuliers, qui les protège, il n'est pas mis en place pour les entreprises. Hein.
Absolument. En fait, si vous voulez, ça a été souligné plusieurs fois par le président de la République, mais aussi par Bruno Le Maire. Le système aujourd'hui de fixation du prix de l'électricité, qui est fixé selon des règles européennes, est très défavorable à France, puisque le prix est fixé en fonction du coût marginal, c'est-à-dire du coût de production le plus cher. Or, en France, nous avons la chance d'avoir une énergie électrique et essentiellement d'origine, enfin, qui est en grande partie d'origine nucléaire et qui coûte pas cher. Et il se trouve qu'on est la facture sur le marché de l'électricité au jour le jour, mais le prix est déterminé par sans doute la production.
Monsieur Bazière, j'entends ce que vous dites, mais d'abord, est-ce que toutes vos piscines sont gérées par le groupe Vert Marine à Versailles?
Alors d'abord, si vous voulez, nous avons une grosse piscine avec deux bassins qui est gérée par Vert Marine.
Et donc c'est. Et il y a d'autres piscines ouvertes dans Versailles, des piscines municipales, s'entend.
Alors on a une petite piscine qui est une piscine sur le plateau de Satory, qui a un statut un peu particulier puisqu'on est sur un terrain militaire.
Et elle est ouverte celle-là.
Elle est ouverte, mais elle est.
D'accord, mais elle ne dépend pas de Vert Marine. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que vous avez proposé, par exemple, parce que ça concerne une seule piscine, j'ai bien compris, à Versailles, que gère Vert Marine. Okay. Est-ce que vous avez proposé à Vert Marine que ce soit vous qui l'aidiez financièrement par une subvention ou d'une autre façon?
Non, je pense qu'il faut poser le problème un peu différemment. Les villes, aujourd'hui, sont au bout de la chaîne institutionnelle et on leur demande énormément. Leur demande parce que les.
Oui, mais pour vos concitoyens, par exemple, pour cette jeune femme qui était allée tout à l'heure à Montauban, elle serait contente si la ville de Montauban mettait à la poche, si j'ose dire.
Non, mais on a déjà mis la poche pendant la période du Covid. On a aidé Vert Marine à passer la période du Covid. Mais il est évident que l'explosion des coûts est tellement élevée que c'est totalement disproportionné.
D'accord, donc vous ne le ferez pas. Vous ne le ferez pas.
Mais c'est pas à nous de le faire. Vous voyez bien, d'accord. C'est un sujet qui nous dépasse complètement.
Et qu'on c'est à qui alors tout. C'est à qui si Vert Marine, c'est trop cher. Si vous le faites pas, c'est à qui de le faire? Qui va payer?
Alors, ce que je disais tout à l'heure, ça ne peut être qu'envisager qu'au niveau national. Mais c'est vrai qu'il faut mobiliser les pouvoirs publics.
D'accord, donc c'est au niveau national. Bah, merci beaucoup, monsieur François de Mazière. Je rappelle que vous êtes maire de Versailles et que vous interveniez parce qu'une de vos piscines, gérée par le groupe Vert Marine, est fermée. Dans une seconde après la pause, à l'heure où les taux d'emprunt grimpent, est-ce le bon moment pour devenir propriétaire? On en parle dans une seconde.
RTL, pour tout comprendre de l'actualité.
RTL Midi, votre vie.
Votre vie, oui, car l'info, c'est aussi ce qui fait votre quotidien. Aujourd'hui, le difficile accès à la propriété.
Oui, des dossiers d'emprunt de plus en plus souvent recalés, des taux qui remontent près de 2% aujourd'hui contre 1,10% en janvier. Est-ce toujours rentable de devenir propriétaire quand on le peut? Pour en parler avec nous, Maëlle Bernier de MeilleurTaux.com, courtier en crédit, bonjour.
Bonjour.
Et bien sûr, Pierre Herbulot, qu'on ne présente plus, journaliste au service économie de RTL, bonjour.
Bonjour.
D'abord, cette question simple. Pierre, est-ce que c'est le pire moment pour acheter?
Alors, en tout cas, c'est le pire moment depuis des années, ça c'est sûr. D'ailleurs, vous l'avez peut-être remarqué.
Depuis combien de temps? Depuis des années.
Alors, j'allais dire, ça fait bien 10 ans que les spécialistes IMO nous disaient cette phrase qu'on a très souvent entendue. C'est le moment d'acheter. Je ne sais pas si vous avez remarqué. On les entend plus sur ce thème-là. En fait, tout simplement parce qu'il y a un cocktail assez nocif pour les emprunteurs. Tous les voyants sont au rouge ou en tout cas à l'orange foncé. À commencer déjà par le prix de l'immobilier. Acheter coûte de plus en plus cher. D'ailleurs, ça se voit dans le baromètre des notaires de France publié ce matin. En un an, le prix des maisons, des appartements a augmenté de près de 7%. Après, vous me direz, sur le papier, on peut toujours acheter soit plus petit, soit emprunter plus. Mais là aussi, ça coince. Près d'un dossier sur deux recalé depuis le printemps.
Bah justement, pourquoi c'est si difficile d'emprunter?
Alors, d'abord, parce que vous en parliez, La hausse fulgurante des taux de crédit paralyse quasiment le marché. Depuis la guerre en Ukraine, on est passé de autour de 1% à autour de 2%. Ça veut dire qu'en gros, en 6 mois, on est revenu 6 ans en arrière. Les particuliers qui avaient commencé à faire des repérages, qui s'étaient renseignés sur leur capacité d'emprunt, sont allés déposer des dossiers. Tous les dossiers sont quasiment caducs parce que ça bouge très très vite. Finalement, leurs dossiers qui étaient finançables ne le sont plus aujourd'hui, mais ce n'est pas tout. Il y a une deuxième chose qui coince un petit peu le marché en ce moment, c'est le taux d'usure. Alors, le taux d'usure, c'est quoi? C'est le taux de crédit immobilier, on a dit, autour de 2%. C'est ce qu'on appelle l'assurance emprunteur. Il y a un taux de crédit aussi qui va s'ajouter. Il y a ensuite les différents frais quand on achète, frais de dossier, frais de courtier, frais de caution, ça va créer un espèce de taux global et la banque n'a pas le droit de prêter au-delà de ce taux. Le problème, pour vraiment résumer, c'est que ce taux d'usure est calculé sur les taux d'il y a 6 mois. Ça veut dire qu'il y a un vrai décalage entre finalement la capacité d'emprunt, ce que les banques ont le droit de prêter aujourd'hui, et la réalité du marché avec des taux à 2%. Des dossiers qui sont objectivement finançables sont coincés et les banques ne peuvent rien faire.
Vous confirmez, Maëlle Bernier, vous qui essayez d'accompagner de potentiels acheteurs pour acquérir un bien, c'est difficile en ce moment de faire accepter ces dossiers ?
C'est très très bien résumé et effectivement, au-delà de la hausse des taux, ouais, il est très fort. Au-delà de la hausse des taux, c'est vrai qu'on a ce fameux taux d'usure qui aujourd'hui est une aberration puisqu'il bloque, y compris, ce qui est important de le dire, des dossiers qui seraient totalement finançables parce qu'ils sont avec des endettements, même pour certains, inférieurs au tiers des revenus, avec des gros apports, mais qui sont juste bloqués parce que ils dépassent ce taux maximum qui est 2,57 sur 20 ans ou 25 ans et qui bloque le marché. Donc aujourd'hui,
Je comprends pas. Comment quelqu'un qui a un tiers pour rembourser le maximum, c'est effectivement un tiers.
35% avec l'assurance, c'est
bon,
ça.
Voilà, je ne comprends pas. C'est le chiffre que vous avez donné de 2,55, je ne sais pas à quoi il correspond.
2,57, c'est le taux d'usure légal fixé par la Banque de France.
Oui, mais ça veut dire quoi?
C'est le taux maximum.
Taux
maximum, tout compris. Assurance, taux nominal, garantie. On doit tout faire rentrer là-dedans.
On parle souvent du taux d'emprunt, Pascal, qui frise les 2%. Eh bien, si on ajoute tous les autres coûts, il ne faut pas dépasser 2,57.
Voilà, parce qu'on est obligé de s'assurer.
Mais pardonnez-moi, mais pourquoi ?
C'est ça que vous soulignez, Maëlle. A priori, vous dites qu'il y a une forme d'incohérence finalement sur ce taux qui n'a aucune réalité par rapport au marché. C'est ce que vous dites.
Exactement. Parce que alors, pour répondre à la question, est-ce qu'on est obligé de s'assurer sur un prêt ? Oui. Alors en France, oui. C'est-à-dire que si vous prenez un crédit immobilier, vous êtes obligé de vous assurer sur ce qu'on appelle le décès et l'invalidité. C'est-à-dire que si vous arrivez un gros pépin de santé, le prêt il est remboursé. Donc c'est pas non plus complètement négligeable. Mais effectivement, ce taux il est fixé aujourd'hui à 2,57.
Mais qui le fixe ?
La Banque de France, Bercy.
Il peut peut-être changer alors.
Pour l'instant, écoutez, si vous y arrivez, j'en serais ravie, mais pour l'instant, on n'y arrive pas. Et donc, pour l'instant, il ne bouge pas. Et il est calculé, comme l'a expliqué tout à l'heure Pierre Abollo, sur des taux d'il y a 6 mois.
Et c'est
donc,
ça qui freine. Et c'est ça qui
c'est
freine.
Ça qui aujourd'hui bloque le marché. Tout à fait.
Et tout le monde est d'accord sur votre analyse?
On est très nombreux, les banquiers, les notaires, on est assez nombreux.
Et ça ne change pas. Et ça ne bouge pas.
Pour l'instant, on n'a pas réussi.
Il faut appeler Julien Courbet.
Voilà, par exemple.
On va vous donner le numéro en antenne de notre collègue Maëlle Bernier. Merci beaucoup Maëlle Bernier de MeilleurTaux.com pour vos explications. Merci aussi Pierre Herbulot.
C'était donc RTL Midi Votre Vie. Le retour de l'info dans une seconde. Arrête ton char Galtier, on arrive.
Céline Landreau, Pascal Pro.
RTL Midi jusqu'à 13h.
Bonjour à tous, si vous nous rejoignez, et merci de rester avec nous. Si vous êtes déjà à l'écoute de ce RTL Midi, il est 12h30.
RTL Midi,
le 12h30,
Céline Landreau et Pascal Pro.
Et donc à 12h30, c'est votre grande édition de la mi-journée avec vous, Céline Landreau.
Des stations essence à sec, conséquence de la ristourne gouvernementale sur le carburant. Les automobilistes vident les cuves trop vite. Le PSG de retour en Ligue des Champions face à la Juve. Ce soir, retour pollué par la polémique sur les trajets en avion du club et la réponse ironique de Christophe Galtier. On en parle à 12h40 avec l'ancien député écolo Mathieu Orphelin qui a regardé les horaires des trains pour Mbappé et ses coéquipiers. Jean-Luc Mélenchon veut préparer sa succession. Et puis, l'hécatombe des footbassans au large de la Bretagne, le plus grand oiseau marin d'Europe, décimé par la grippe aviaire. À 12h50, LVT midi, votre rendez-vous culture. Et aujourd'hui, hommage à l'As des As, un an après la disparition de Jean-Paul Belmondo. Paul, son fils, se confie. La question du jour sur RTL.fr, se déplacer en char à voile. Avez-vous été choqué par les réactions de Christophe Galtier et de Kylian Mbappé?
Et on parlera évidemment de tous ces sujets avec les auditeurs de 13h à 14h30. La phrase de Galtier, Emmanuel Macron qui nous invite à la sobriété. La trentaine de piscines publiques qui ont également fermé. Belmondo, bien sûr. Ce sera dans une demi-heure.
La météo à la fin du journal, mais déjà, Peggy Broche, un indice pour l'après-midi, c'est orageux.
Orageux exactement sur l'Est, Céline, avec 27 départements en vigilance orange et orageux également sur le Nord-Ouest.
Merci Peggy.
Jusqu'à 13h.
RTL Midi.
Conséquence inattendue de la ristourne gouvernementale sur le prix du carburant. Moins 30 centimes, on le rappelle, depuis le 1er septembre. Et moins 50 même dans les stations du groupe Total qui a décidé de faire un geste supplémentaire. Des tarifs si attractifs, Christophe Bourou, que les stations sont prises d'assaut. Vous allez nous en parler dans un instant. Mais d'abord, ce témoignage dans la file d'attente ce matin. Karim, un automobiliste nantais qui a préféré faire demi-tour.
Moi, quand je vois la queue, c'est rédhibitoire. J'attends. Du coup, j'ai laissé tomber pour l'instant parce qu'à chaque fois que je vois la queue, ça me désole. Donc comme il reste encore de l'essence, je fais autrement. Depuis un an, quand on a vu la flambée des prix, alors effectivement, le jour où je vais avoir besoin, à titre personnel, le faire, je pense que je viendrai un soir ou un matin très tôt ou un week-end, mais à certaines heures pour pouvoir en profiter. Mais la queue, non, pas encore. 20 centimes sur un plein, alors je sais pas combien ça représente, mais alors 50 litres peut-être. Oh, quand même, ça fait 10 euros. Là, il y a trop de monde. Déjà, ils ont du mal à rentrer dans la station complètement sur le périph', ça fait la queue. Donc, il y a, je sais pas, moi, 10-15 minutes d'attente. Enfin, moi, je travaille. Hein. Pas encore.
Longue file d'attente, donc, à Nantes. Et ailleurs, Christophe Bourou, certaines stations se retrouvent même à sec.
Oui, à tel point que la fréquentation a été multiplié par deux en moyenne, voire par quatre à certaines pompes chez Total Energy. Résultat aujourd'hui, selon nos informations, 90 stations sur les 3500 de l'enseigne sont en rupture de stock, autrement dit à sec. Et visiblement, on l'a entendu dans le reportage, les automobilistes préfèrent attendre que d'aller faire le plein ailleurs, même si les cuves sont bien remplies, selon Francis Pousse, qui représente les stations indépendantes.
Effectivement, dans le réseau hors Total, les stations sont approvisionnées, même si malheureusement, elles peuvent aussi avoir des ruptures parce que les chiffres sont en baisse, moins 30 à moins 40% depuis le 1er septembre dans le hors réseau Total. Et donc, les exploitants de stations commandent moins de carburant.
30 à 40% de baisse pour les stations indépendantes, ce qui veut dire qu'à terme, des centaines de stations indépendantes, souvent en milieu rural, risquent eh bien, tout simplement de disparaître.
Merci Christophe Bourou, spécialiste auto pour RTL.
Friture sur la ligne entre Emmanuel Macron et l'EDF.
Le président de la République n'a pas apprécié les critiques de Jean-Bernard Lévy lors de la rentrée du MEDEF la semaine dernière. Le patron d'EDF tirait à boulet rouge sur la gestion gouvernementale du parc nucléaire. On rappelle que la moitié des réacteurs est aujourd'hui à l'arrêt, notamment pour maintenance. Bonjour Thomas Després.
Bonjour.
Un peu rancunier, Emmanuel Macron avait aiguisé ses flèches. Hein.
Oui, et le moins qu'on puisse dire, c'est que ces deux-là ne partiront pas en vacances ensemble. Pour Emmanuel Macron, si ces 32 réacteurs sont encore à l'arrêt, c'est à cause d'EDF et de personne d'autre.
C'est absolument inacceptable que les gens qui ont eu la responsabilité des travaux de maintenance du parc installé puissent expliquer aujourd'hui que nous n'avons pas pris nos responsabilités.
Alors, pour bien comprendre cette grosse colère du président, vous l'avez dit, il faut réécouter ce que disait la semaine dernière le patron d'EDF, Jean-Bernard Lévy.
On manque de bras parce qu'on n'a pas assez d'équipes formées. Et pourquoi on n'a pas assez d'équipes formées ? Eh bien parce qu'on nous a dit, non, votre parc nucléaire, il va décliner. Bah évidemment, on n'a pas embauché des gens pour en construire 12, on a embauché des gens pour enfermer 12.
En clair, si les Français risquent de manquer d'électricité à Noël, ce serait à cause du gouvernement. Sauf que vous imaginez, ça ne passe pas. Des propos faux et irresponsables, rétorque Emmanuel Macron. Si les travaux étaient conditionnés à la création de nouveaux réacteurs, nous serions fous, dit même le président. EDF qui cherche d'ailleurs un nouveau patron. On pourrait peut-être ajouter sur la petite annonce, prière de bien s'entendre avec le président de la République. Ça pourrait servir.
Thomas Després du service politique d'RTL.
À l'heure où certains ne cachent guère leurs ambitions, notamment à droite, cette déclaration qu'il va falloir archiver.
Jean-Luc Mélenchon ne sera pas candidat en 2027. En tout cas, après trois candidatures successives, il souhaite être remplacer. Ce sont ses termes, c'est ce qu'il a confié au site Reporter. Jean-Luc Mélenchon qui appelle dans le même temps ses troupes à ne pas déclencher de guerre civile pour sa succession.
Moi, je souhaite être remplacé. Voilà ce que j'ai à dire.
Vous ne voulez pas être candidat en 2000...
Oui, c'est ça, en 2027, et pourquoi pas en 2056. Bon, je souhaite, parce que la nouvelle génération rend ça possible. Des dirigeants qui sont capables d'incarner un rôle pareil, il y en a. Donc, je voudrais qu'on arrête de me bassiner avec ça. Je ne suis pas candidat à la candidature permanente.
Le non-candidat Jean-Luc Mélenchon avec nos confrères du site Reporter.
Et évidemment, vous pourrez réagir au 32-10 à cette déclaration de Jean-Luc Mélenchon. C'est fini, les amis. Voilà comment Boris Johnson a fait ses adieux ce matin devant Downing Street.
Le fantasque Premier ministre qui nous a habitués à des sorties peu politiquement correctes est en ce moment même avec la reine Elisabeth II à Balmoral en Écosse pour présenter officiellement sa démission. La reine qui recevra dans la foulée Liz Truss qui va donc lui succéder, ce sera la 15e chef du gouvernement de Sa Majesté Marie Billon.
Oui, mais c'est la première avec laquelle Elisabeth II partagera un prénom. Lise, c'est bien sûr un diminutif pour Elisabeth. Pas de doute, par contre, sur qui est qui dans cette cérémonie appelée le baise-main, même si ce ne sera qu'une poignée de main. Liz Truss a déjà, selon le protocole, frôlé la main de la reine de ses lèvres quand elle est devenue l'une de ses conseillères privées. Un titre honorifique en 2014, on ne baisse pas deux fois la main d'une tête couronnée. Révérence, par contre, il devrait y avoir. Liz Truss pourrait vouloir se faire pardonner sa jeunesse antimonarchiste en mettant un genou à terre, la reine, elle, ne mesurera pas le coefficient de la courbette. Seule concession que la monarque de 96 ans s'est accordée, organiser la cérémonie dans son salon de vacances. Richard Fitzwilliams est spécialiste de la monarchie.
Normalement, elle serait redescendue à Buckingham Palace, mais avec ses problèmes de mobilité, rien n'était garanti. Donc c'était logique que Liz Truss devienne la première chef de gouvernement depuis 1885 à voyager à Balmoral.
Comme la reine Victoria, à l'époque, Elisabeth II demandera à Liz Truss de former un gouvernement. 30 minutes d'audience, la voilà première ministre et sitôt repartie vers Londres pour un mandat peut-être aussi mouvementé que son vol secoué par la tempête.
Marie Billon, correspondante de RTL au Royaume-Uni.
Une hécatombe à présent qui interroge en Bretagne où les fous de Bassan sont décimés.
Les fous de Bassan, ce sont les plus grands oiseaux marins d'Europe. Et il n'y a à ce jour qu'une colonie en France, sur l'île Rouzic, au large de Perros-Guirec, dans les Côtes d'Armor, où des milliers de cadavres ont été découvert, la faute à la grippe aviaire, d'après l'ornithologue James Jean-Baptiste.
C'est extrêmement triste puisque c'est nos seuls couples de France et là la population est en train d'être décimée par la grippe aviaire. C'est un très grand oiseau à dominante blanc, le bout des ailes noires et une tête jaune et il fait 1,80 m d'envergure. Et il est encore trop tôt pour faire le bilan parce que là il y a des cadavres qui se retrouvent sur les plages chaque jour. On a eu au mois de juin un virus qui a surtout attaqué les goélands. Et puis là cette souche peut être mutée, on ne sait pas encore, sur du fou de Bassan. Le virus aviaire existe depuis longtemps, hein, en Asie notamment. Et là il infecte particulièrement la faune sauvage comme on ne l'a jamais vu par les années passées. Et on a surtout peur que ce virus se propage ensuite pour l'arrivée des futurs oiseaux hivernants qui vont passer l'hiver en France, aux limicoles et puis aux canards qui vont arriver un peu plus tard.
James Jean-Baptiste, joint pour RTL par Virginie Garin.
La polémique sur l'utilisation de l'avion plutôt que du train par le PSG a presque fait oublier l'événement sportif du jour. Le retour en Ligue des Champions pour Mbappé et ses coéquipiers.
Et ce sera face à la Juventus Turin ce soir. Le PSG qui multiplie les démonstrations en championnat. Bonjour Philippe Sanfourche.
Bonjour.
PSG qui va devoir montrer qu'il est aussi à l'aise sur la scène européenne.
Bah oui, c'est tout le sens du projet parisien. Kylian Mbappé n'a pas prolongé au PSG pour un énième titre en Ligue, mais bien pour offrir à Paris sa première victoire en Ligue des Champions. La mayonnaise semble prendre en ce début de saison avec le nouvel entraîneur Christophe Galtier, le retour en forme de Neymar et Messi, mais c'est évidemment ce soir que l'on va en savoir un peu plus.
C'est important, voilà, pour un club comme le PSG de pouvoir battre des grands noms du football comme la Juventus. Maintenant aussi, on a une campagne européenne à bien débuter devant nos supporters. Ils attendent beaucoup cette compétition. Je pense que c'est à nous de donner une première belle copie et ensuite de pouvoir enchaîner.
Kylian Mbappé, 7 buts déjà cette saison et qui attend évidemment le premier ce soir en Ligue des Champions.
Ce sera l'occasion, cette rencontre aussi, Philippe, pour l'entraîneur parisien Christophe Galtier, de rompre la malédiction, lui qui n'a remporté aucun match jusque-là en Ligue des Champions.
Oui, alors une seule expérience hein, avec Lille peu fructueuse en 2019, il est vrai. C'est un peu comme un bachelier qui passerait ce soir son deuxième concours d'entrée à Sciences Po avec un adversaire en face qui, lui, est major à Sciences Po, c'est-à-dire Massimiliano Allegri, deux finales de Ligue des Champions qui ferraille chaque année avec les Guardiola, Ancelotti ou Zidane. Donc oui, Christophe Galtier a une énorme pression et c'est aussi peut-être une des clés de compréhension pour expliquer sa boutade qui tombe à plat hier. Il voulait paraître détendu, un peu trop peut-être pour certains.
Merci Philippe, la rencontre ce sera à vivre, on le rappelle, avec vous dans RTL Foot dès 20h45.
Mais avant ça, dans quelques minutes, on reviendra bien sûr sur la polémique du moment, le char à voile exhibé par Christophe Galtier quand on l'interroge sur les déplacements polluants de son club. Ce sera dans quelques secondes.
On l'apprend à l'instant, l'international français Virimi Vakatawa arrête sa carrière. Le joueur du Racing 92 contraint d'arrêter sa carrière pour un problème cardiologique. Pour l'heure, vous avez entendu la petite musique, on reparle du temps avec vous, Peggy Broche.
Il va faire beau au Parc des Princes ce soir.
Oui, mais ailleurs, c'est bien instable, malheureusement. On a 27 départements qui sont en vigilance orange aux orages dans l'Est. L'Hérault et le Gard sont concernés par deux vigilances orages et pluie inondation. Des averses orageuses également, mais moins marquées cet après-midi sur le Nord-Ouest. Et ailleurs, c'est du beau temps, même si on peut avoir un petit orage isolé, mais vraiment pas grand-chose. Les températures de 20 à 24 près de la Manche, 27 à 30 au Nord et jusqu'à 33 au Sud.
Merci Peggy.
Allez, une pause et dans un instant, la polémique Galtier. Il y a au moins un homme en France qui est heureux en ce moment. C'est le président de la Fédération française de char à voile. A tout de suite.
Jusqu'à 13h, RTL Midi. Pascal Pro, Céline Landreau. RTL Midi. Pascal Pro et Céline Landreau.
Je me doutais qu'on allait avoir cette question-là. Pour être très honnête avec vous, ce matin, on a parlé avec la société qui organise nos déplacements. On est en train de voir si on ne peut pas se déplacer en char à voile.
La boutade de Christophe Galtier, l'entraîneur du PSG, hier en conférence de presse, qui a tenté d'ironiser.
Qui a fait sourire d'ailleurs tout le monde au moment où il l'a dite. Tous les journalistes sur place, manifestement, ont souri parce que c'était une boutade.
Les journalistes, mais pas la classe politique. Oui, on en a parlé tout à l'heure dans le journal. Je sais que vous êtes au fait de l'actualité, Pascal. C'était une réponse ironique parce que Christophe Galtier était interrogé par un journaliste qui lui demandait si le PSG allait continuer à utiliser l'avion, comme c'était le cas ce week-end, pour aller à Nantes plutôt que le train. Pour parler de tout ça avec nous, Christian Olivier, le chef du service des sports d'RTL. Bonjour Christian.
Bonjour.
Et Mathieu Orphelin, ex-député écologiste. Bonjour.
Bonjour à vous.
Mathieu Orphelin, vous avez tweeté ce matin que vous aviez trouvé un trajet Paris-Lyon pour le PSG qui s'y rendra le 18 septembre prochain. Ah bah, c'est très gentil de votre part de chercher à effectuer leur réservation. C'est une manière de faire comprendre que les clubs de foot doivent évoluer aussi dans leur manière de se déplacer.
Exactement. Bien sûr qu'il faut que tout le monde évolue. On est face à des crises climatiques et énergétiques de grande ampleur. Chacun doit faire des efforts. Les clubs sportifs également. Et moi, j'adorerais que le PSG, comme tant d'autres clubs en France, s'engage vers le développement durable, vers des modes de déplacement beaucoup plus doux et moins impactants pour le climat. Il y a des grands clubs qui l'ont fait, à l'étranger, Liverpool, la Juventus. Et donc, cette blague, si elle a un peu tombé à plat, c'est peut-être parce que ça minimisait ce sujet du climat et de l'énergie, et peut-être aussi parce que ça laissait croire qu'il n'y avait aucune autre solution. Alors évidemment qu'il y a plein d'autres solutions que le char à voile pour que le PSG se déplace autrement. Et puis, moi je crois que des joueurs comme Kylian Mbappé, qui sont des vraies stars, vraiment Kylian Mbappé, il est dans le cœur de tant et tant de Français et de Françaises, ça pourrait à son tour devenir un grand ambassadeur pour les causes du climat, de la biodiversité. Moi je crois qu'il faut sortir de cette polémique pour dire on est plein à pouvoir accompagner le PSG aujourd'hui vers une meilleure prise en compte de ces enjeux environnementaux.
Est-ce qu'on est sérieux lorsqu'on en est à ce niveau de discussion, de penser que de ne pas prendre un avion privé va sauver la planète, Mathieu Orphelin?
Vous ne pouvez pas demander à chaque Français de faire des efforts si ceux qui ont le plus d'impact sur l'environnement n'en font aucun. Et je crois qu'aussi beaucoup de fans aujourd'hui de foot, de Kylian Mbappé comme de tant d'autres joueurs, ce sont des sujets qui comptent pour eux. et que tout.
Interrogez-les, plus... je pense qu'ils ne seraient peut-être pas sur votre position, sans compter qu'un sportif de haut niveau n'est pas monsieur tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a une organisation pour un club de haut niveau qui nécessite de rentrer peut-être plus vite dans la nuit, de faire de la récupération plus vite. Il n'y a pas de train la nuit, hein, ça ne vous a pas échappé.
Donc, il peut y avoir des trains privés la nuit, et puis vous savez...
Et comment vous faites pour sécuriser une gare lorsque Messi et Mbappé arrivent à 1h du matin sur un quai de gare?
D'abord, vous n'êtes pas obligé de partir, par exemple, de Paris-Montparnasse. Il y a des gares beaucoup près du Camp des Loges, pour parler du PSG.
Mais prenons l'exemple de Nantes samedi soir. Vous avez joué votre match à 23h. Vous avez un train de nuit. Vous faites comment pour sécuriser la gare de Nantes?
Vous savez, on sait sécuriser les gares pour des ministres, pour des grands déplacements. On saura le faire.
Donc vous allez sécuriser à 1h du matin. Vous allez mettre 50 policiers à 1h du matin pour les joueurs du Paris Saint-Germain. Vous trouvez que c'est plus intelligent que de les faire revenir en avion?
Comment vous expliquez que des grands clubs, je vous l'ai dit, comme Liverpool et la Juventus, y arrivent? Pourquoi en France, on serait condamné à utiliser des jets privés pour tous les déplacements des grands clubs? Il faut aller dans cette direction. Ce n'est pas la seule action que peut mettre en place un club, un joueur.
Mais surtout que ça ne sert à rien sur le plan écologique. C'est surtout ça. La vérité, il faut le dire, ça ne sert à rien. La France est responsable, paraît-il, de moins d'1%. De CO2.
C'est pour ça qu'il faut rien faire.
De moins de 1%, et on en est en train de demander aux joueurs du Paris Saint-Germain de ne pas voyager en avion. Mais monsieur Orphelin, est-ce qu'on peut peut-être être un peu sérieux dans les discussions? Ou alors vous dites c'est symbolique, vous dites c'est symbolique, et on veut effectivement, sur le plan du symbole, taper, pourquoi pas le football, taper ceux qui ont des jets privés. Mais ne nous dites pas que c'est pour une bataille écologique.
Et pour les deux, et c'est là où je ne partage pas votre analyse, c'est à la fois pour le symbole, mais c'est aussi pour l'impact que ça a, les déplacements en jet privé, c'est les déplacements qui sont les plus polluants. Et encore une fois, moi je rêve de voir Kylian Mbappé s'intéresser à ces sujets, on est un scientifique, des organisations, à pouvoir l'accompagner, et ce serait un formidable ambassadeur s'il s'engageait pour le climat, pour la biodiversité. Il fait rêver des millions de Français et de Françaises. Et bien on a besoin de porte-voix comme ça pour l'environnement, et vous verrez que vous savez, dans les événements sportifs, le principal impact, c'est le transport. Transport des joueurs, transport des délégations, transport des spectateurs. Il y a beaucoup à faire sur ce sujet. Il y a des clubs à l'étranger qui nous montrent la loi. Et là, je crois qu'il faut qu'on sorte tous ensemble positivement de cette polémique. Le déplacement à Lyon, c'est dans 10 jours. Voilà, c'est un beau symbole que le PSG y aille enfin.
Christian Olivier, Mathieu Orphelin parlait d'autres clubs qui montrent l'exemple comme la Juventus. Il y a beaucoup à faire encore pour les clubs français.
Autorisez-moi à dire 3 choses. La première, d'abord, que Christophe Galtier fait une erreur de communication sur la forme, c'est entendu. Il n'a pas préparé son intervention. Il aurait pu simplement dire c'est un sujet sérieux. Le PSG prend d'ailleurs à bras le corps ce dossier car il est en négociation et en discussion avec la SNCF depuis plusieurs semaines. Ce que c'est bien gardé de dire le directeur commercial sur son compte Twitter, et que le PSG, il lui arrive de prendre également un bus pour aller à Lille, premier point. Le sujet est sérieux, petite erreur de communication, tout le monde en convient. Deuxième chose, je réponds à monsieur Orphelin pour dire qu'il ne dit pas l'entière vérité. Ce n'est pas rentrer complètement dans les mœurs partout en Europe. Vous prenez les actualités qui vous intéressent, monsieur Orphelin. Que le Milan, champion de France, prenne le bus 2h30 pour aller à Turin et à Vérone, c'est entendu, mais vous ne faites pas mention d'un avion qui est pris sur simplement 30 minutes pour aller à Gênes, parce que les dirigeants de Milan, 30 minutes d'avion pour aller à Gênes, parce que les dirigeants milanais estiment que la route est trop difficile. Vous ne mentionnez pas qu'en Espagne, il n'y a qu'un seul club qui est en partenariat, et encore en préparation de partenariat avec les chemins de fer locaux, c'est le Betis Séville, pour effectivement estimer qu'il serait possible de prendre le train sur des voyages qui ne dépassent pas les 2 heures, ça vous ne le mentionnez pas. Real Madrid-Barcelone, c'est non seulement des avions et c'est des bus, des clubs qui viennent récupérer les joueurs. Troisième chose également, le match qui aura lieu à Lyon à 21h le dimanche 18 septembre, que fait-on concrètement? La gare de Lyon ici à Paris ferme à 1h30, Perrache ferme à 0h30, Pardieu ferme à 20h30. Alors oui,
faut privatiser. Est-ce que la SNCF n'a pas des choses plus importantes pour le grand public à faire que de privatiser pour le Paris Saint-Germain?
Vous allez rester avec nous, avec les auditeurs. Moi, je remercie M. Orphelin parce que notre échange était un peu vif, mais je pense que nous représentons tous les deux sur ce sujet deux tendances qui sont contradictoires, et l'important, c'est que vous ayez pu l'exprimer, et puis moi, de vous donner la controverse. Merci, M. Orphelin. Il est parti. 12h53.
RTL Midi, Céline Landreau et Pascal Pro. RTL, laissez-vous tenter, midi.
Et la culture se met à table tous les jours dans RTL Midi. Aujourd'hui, Steven Bellery est avec nous. Bonjour,
bonjour
Steven.
À tous.
Et vous allez évidemment nous parler de Jean-Paul Belmondo qui est mort il y a juste un an.
Jean-Paul Belmondo, oui, on va entendre sa voix pour commencer. C'était
de travailler peut-être sur une exposition, de travailler.
Alors ça, c'est pas Jean-Paul Belmondo, ça c'est son fils Paul. Donc on va reprendre dans l'ordre. Jean-Paul Belmondo qui disparaissait il y a un an exactement à l'âge de 88 ans, et un an après son décès, Steven, vous avez recueilli vous les confidences de son fils Paul. Paul qui parle notamment de l'héritage de ce monstre du cinéma qu'il faut entretenir.
Ben oui, c'est un petit peu son travail aujourd'hui, c'est de perpétuer sa mémoire, son image, son héritage culturel, mais aussi celui de son grand-père, Paul Belmondo, dont, qui était sculpteur. Il y a déjà un musée à Boulogne, et donc il va réfléchir un petit peu à comment travailler cet héritage culturel. Il m'en a parlé, Paul Belmondo.
J'ai plus envie de travailler peut-être sur une exposition, de travailler justement sur le fait qu'il y ait un lieu dans le musée Paul Belmondo.
Oui, il pourrait y avoir une aile dédiée à votre père.
Exactement, qui soit dédiée à lui. J'ai plus envie de travailler sur des choses-là que d'aller retravailler sur un documentaire. Non. Mais pour mon père, j'ai pas envie non plus d'une exploitation à outrance. C'est-à-dire que ça reste ce que lui aurait voulu, que ce soit des choses très ponctuelles, occasionnelles, et que ce soit pas la fête à la saucisse ou une pub. Ou, voilà. Donc,
ça, je sais que vous êtes opposé à l'utilisation de l'image de votre père dans la publicité. On vous l'a beaucoup demandé cette année.
Oui, on nous l'a demandé avec beaucoup d'insistance, que je comprends, je dirais. Mais on a refusé parce qu'il l'a toujours refusé, il l'a jamais voulu. Je peux vous dire qu'à l'époque, on lui avait proposé énormément d'argent pour le faire, et il a toujours dit non. Donc, il n'y avait aucune raison que nous, d'un seul coup, on dise oui pour ça, et tout le monde peut faire de la pub, il n'y a pas de problème. Mais lui, non.
Mais ça, c'est vrai, je ne m'étais jamais fait la réflexion. Jean-Paul Belmondo n'a jamais fait de publicité,
jamais.
Au contraire d'Isabelle Adjani, de Catherine Deneuve, d'Alain Delon. Ouais. Alors, c'est une dynastie, les Belmondo. Il y avait le grand-père, il y avait le père, et il y aura Victor.
Il y a Victor Belmondo, voilà, la dynastie continue. Il fait ses débuts d'acteur, des débuts plutôt remarqués. Il présentait au Festival d'Angoulême la semaine dernière encore un nouveau film. J'ai évidemment interrogé Paul Belmondo sur les débuts d'acteur de son fils cadet.
Je suis très heureux pour lui. D'abord, il le mérite. Il a beaucoup de talent. Il a beaucoup travaillé pour ça. Et même, une fois de plus, si on se dit, bah oui, bien sûr, il s'appelle Belmondo.
Il a réfléchi à un moment à changer de nom d'artiste, je crois.
Ouais, il a réfléchi. Mais quand on voit sa gueule, c'est difficile. Hein. C'est compliqué. Donc il a vite compris qu'il vaut mieux qu'il garde son nom. Et puis qu'il l'assume, même si pour lui ça a été difficile. Aujourd'hui, il assume le fait qu'il est le petit-fils de Jean-Paul Belmondo. Et c'est une bonne chose. C'est vrai que ça sera jamais simple. Il y aura toujours une hésitation. Mais pour l'instant, voilà, il fait une très belle carrière. Il a, que ce soit là, le biopic sur Bardot qu'il vient de tourner, ou le film qu'il vient de faire avec Guillaume de Tanguyliec, qui a été justement visionné
au Festival d'Angoulême,
qui a eu beaucoup de succès. Et en même temps, je suis père et j'ai peur parce que c'est un métier difficile, fragile, où on dépend complètement des autres. Il n'y a pas que son talent pour réussir. On a besoin aussi qu'on vous donne des films pour pouvoir exprimer son talent.
Je crois que Jean-Paul regardait les débuts de Victor avec gourmandise aussi.
Oui, il est venu le voir la première fois où il est monté sur scène à la fin de son cursus, de ses 3 années de cours de théâtre. Donc il est venu le voir, il regardait ses films. Victor lui a montré ses films. Il a pu voir et Envole-moi et Albatros. Il a pu le voir, et ça, c'est une bonne chose. Oui.
Paul Belmondo, merci Steven Bellery. Il est 13h.
RTL Midi.